tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur M Radio et donc bienvenue chez Beaugrand. 2 heures de balade, de discussion, de confidence et de fou rire avec un de vos artistes préférés. C'est Mika qui est aux manettes aujourd'hui. Bonjour Mika.
Bonjour.
À vous de deviner le nom de notre invité du jour avec ce premier indice.
Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte.
Pom pom pom. Ah oui, la petite Charlotte, c'est donc le prénom de notre invitée, mais elle est connue sous un autre pseudo. Attention, deuxième indice.
Eh dis donc, tu t'es fait plaisir avec ton nouveau Vito, toi.
C'est une pub pour le Mercedes Vito, c'est un utilitaire. Donc Charlotte plus Vito, si on change une lettre, on obtient Vita, évidemment. Bonjour Vita, bienvenue.
Salut, bonjour tout le monde.
J'espère que ça va.
Ouais, ça va. Écoute,
c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur M Radio.
Je suis ravie.
En ce samedi matin. Alors ouais. Je ne sais pas, j'ai quand même un peu bossé sur ta bio. Je sais que le samedi matin, moi je vois bien Vita en train de faire une petite recette de cuisine, de faire son ménage. Parce que t'aimes bien être chez toi.
Ah, j'adore être chez moi, mais alors je ne suis pas du matin. Le samedi matin,
ah,
je
c'est
dors.
Ah, c'est la grasse
mat. J'ai élevé tous mes gosses pour que personne ne me réveille le matin. Et le week-end, on dort le matin. Mais par contre, l'après-midi, ouais, c'est exactement ça. Cuisine, le foot, les trucs. Enfin,
mais pas avant midi. Avant midi, n'appelez pas Vita.
Midi, c'est un minimum.
Ah d'accord, midi, c'est très tôt du coup.
Exactement.
Midi, c'est quand il y a le réveil.
Ouais, complètement.
Donc Vita et non pas Vito, hein, le nom de cette camionnette.
Vito qui est le prénom de mon oncle en fait, de base, mais qui est très répandu, parce que Vita c'est le prénom de ma maman.
Mais oui, le deuxième prénom de ta maman,
ouais,
c'est ça.
Et j'ai 3 oncles qui s'appellent Vito, mais du coup, ouais, et puis Vito c'était notre ami Fatal Bazooka et Vito.
Exactement, c'était Pascal Obispo qui jouait ton rôle dans la parodie. Et c'est aussi, je crois, le prénom de ton arrière-grand-mère, Vita.
Exactement.
Ah oui, donc les racines italiennes,
ouais,
elles sont là
ça.
Toujours.
Hein. C'est ma maman, ouais.
Alors, aujourd'hui, ce n'est pas grâce mat. Tu as eu le courage de venir nous voir dès 10h du matin. Et ça, c'est très bien. On va d'abord écouter ce duo auquel on ne s'attendait pas il y a quelques semaines. C'était un peu l'une des surprises de l'été. Vita avec Julien Doré. Yes. Viens, on essaye sur M Radio. On en parle juste après.
M Radio, M Radio. Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Et Vita est avec nous ce matin. C'est un plaisir. On est ensemble jusqu'à midi. Super chanson qui nous a accompagnés cet été. Moi, je l'ai écoutée sur la route des vacances.
Ouais, parce que c'était festival en fait.
Carrément, c'était vraiment.
Un petit côté hawaïen dans la prod.
Hyper frais.
Ouais.
Ça a fait un bien fou. Et je disais, du duo étonnant parce que c'est
ouais,
vrai
insolite,
que.
Insolite en fait.
On t'imaginait pas chanter pour le coup avec Julien Doré.
Et c'est ce qui me plaît moi dans les collaborations, c'est d'aller chercher souvent des artistes qui sont loin finalement de mon univers. Et là, j'étais en studio avec Renaud Robillot, qui est un des compositeurs avec qui je travaille le plus. Et on a cette idée comme ça de chanson.
Ah, ça vient de toi donc.
Ouais, ça vient de moi et on commence. J'ai cette idée de mélodie, on commence à écrire la chanson et je pense à Julien dessus. Ouais. J'imagine que Julien et on se connaît très peu avec Julien.
Oui, vous êtes croisés sur des plateaux d'artistes.
Ouais,
on s'est
croisés comme ça, mais on n'est pas, c'est pas quelqu'un de proche.
Ouais.
Et je lui écris comme ça sur les réseaux et au hasard, je me dis bon, peut-être qu'il a. Il,
ah, t'avais
il,
même pas son portable, tu l'as
même
écrit
pas.
Sur les réseaux.
Je lui ai écrit sur les réseaux, il m'a répondu tout de suite.
Et tu lui as mis, viens, on essaie alors.
Non, j'aurais pu lui faire ça, mais j'ai envoyé la chanson et enfin la maquette et il m'a dit. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis c'est parti de là. Et après, on s'est retrouvés, on l'a composé ensemble. Mais c'était vraiment, je sais pas, j'ai pensé à lui comme ça et je trouvais ça intéressant parce que je me disais, les gens nous attendent pas du tout.
Oui, parce que t'es plus habitué à l'univers urbain.
Forcément. Moi, j'ai quand même collaboré avec. Ouais, j'ai démarré beaucoup par l'univers urbain.
Il y a eu Diams, il y a eu Gims, évidemment.
Oui, mais c'est vrai que dans les collaborations, il y a eu aussi des choses.
Il y a eu Claudio Capéo.
Oui, il y a eu Claudio Capéo qui a été quand même un gros succès. Mais moi, j'écris aussi beaucoup pour plein d'artistes. Qui sont plutôt loin de l'univers.
Et c'est moins
urbain.
Connu ça, les gens ne savent pas forcément.
Ouais, parce que je trouve que ce n'est pas malin de hurler sur tous les toits quand tu écris pour d'autres artistes. Moi, en tout cas, c'est ma politique.
Oui, toi, tu te mets en retrait derrière l'artiste.
Bah parce que là, c'est pas là, quand je me mets dans ce mode-là, je trouve que ce n'est pas Vita qui se met au service de l'artiste. C'est moi en tant qu'auteur et je suis au service de l'artiste. Et moi, en tant qu'artiste, je n'aimerais pas que la personne qui écrit pour moi.
Je comprends.
Donc, je le fais plutôt dans l'ombre. Mais je pense à Lara, avec qui j'ai travaillé sur son dernier album. Voilà, qui sont, et puis plein d'autres artistes. Amel, Kenji, voilà quoi, j'ai eu l'occasion de travailler avec plein d'artistes en compo et en écriture. Et voilà, et puis Julien, j'étais ravie de partager cette chanson avec lui.
Ouais. Ça fait plaisir aux gens visiblement parce que succès, single d'or, j'ai vu les chiffres, là on a plus de 15 millions de streams. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu le clip, allez voir sur YouTube le clip.
C'est son idée, hein.
Il est hyper drôle. C'est un plan séquence, vous êtes chacun assis sur une chaise devant une caravane style américaine et il ne se passe rien. Et ce qui est génial, c'est que sur l'écran, on voit. des faux messages de réaction qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux à la vue du clip. Et c'est un peu les rageux hein, ouais, qui écrivent. C'est genre, ah, c'est du playback. Et ils écrivent, genre, jamais il se lève, en fait. Effectivement, jamais il se lève, en fait. Viens à la Corée. Ça, c'était un message signé Kamel Wally.
Ouais,
du site de, enfin, du compte officiel de Kamel Wally. Quand elle va capter que c'est pas Slimane à ses côtés. C'est tellement drôle. Le scénario du clip, il est resté dans la caravane.
C'est tellement drôle.
Parce que
ça,
les gens
écrivent vraiment. Ça, c'est vraiment l'idée de Julien. Alors, pour quand même, pour la petite anecdote, on fait un clip classique.
Ouais.
Qui était pas ce clip, hein. Enfin, qui ressemblait, qui était dans le décor de ce clip-là.
Ah, vous aviez tourné un clip
normal.
On a
tourné un clip avec plein d'autres rushs. Et puis, ouais. Quand on est au montage, Julien m'écrit, il me dit, j'ai une idée. Il a vraiment des idées comme ça. Moi, je trouve qu'il est complètement...
C'est un créatif.
C'est un créatif. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif et qui est super original dans ses idées. Il me dit, je trouve ça énorme qu'on n'utilise que le plan séquence où on est assis. Et il me dit, on fait défiler des messages. Il me dit, laisse-moi te faire une proposition. Et moi, j'étais en fou rire quand je lis les messages.
Le clip est génial. Ah ouais, c'est super.
Et voilà, le clip a été numéro 1 en télé pendant des semaines et j'étais ravie. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est drôle et c'est insolite. En fait, et je trouve que c'est ça qui est fort dans une ère où il y a tellement de choses qui sortent et qui se passent. Il faut faire des choses un peu différentes.
Puis c'est difficile d'apporter de la nouveauté. Là, c'était une super idée pour le coup. Pour le coup, les réseaux, je sais que les haters, tu les lis pas beaucoup parce que tu vas plus beaucoup sur les réseaux.
Ouais, moi j'ai arrêté certains réseaux. J'ai arrêté de lire en 2009 après la sortie de mon deuxième album où j'ai vu que il y a des réseaux où je trouve qu'ils ne sont pas dans la bienveillance. Je pense par exemple à un réseau comme X.
Ouais.
C'est un réseau qui est plus un réseau informatif mais qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les infos, je les cherche sur d'autres réseaux. C'est un réseau où je trouve que les gens sont extrêmement violents.
C'est très agressif. Ouais.
C'est très agressif. Je pense qu'il faut avoir des épaules bien solides, surtout quand on démarre une carrière aujourd'hui.
Toi, t'en as souffert au début des messages de critiques.
Ouais, parce que j'avais pas les épaules, justement, et que j'ai pas fait de la musique pour ça.
Mais t'avais pas envie de ça, en fait.
Puis j'ai pas fait ce métier pour ça. Moi, la notoriété, c'est quelque chose que j'ai vécu difficilement sur le tard, que j'ai compris que ça allait avec ce métier-là.
Mais ça soulage quand on se dégage de ces réseaux toxiques, quand même.
Complètement.
Je sais pas, finalement.
Si toi, t'as l'occasion parfois de partir en vacances et d'éteindre ton tel.
J'essaye.
Je te jure que quand tu le fais pendant 2 jours pour des raisons comme ça, ça m'est arrivé pour l'autre jour, j'ai changé de téléphone.
Ouais.
J'ai dû couper mon tel pendant 2 jours. Mais ça te donne une espèce de liberté d'un coup dans ta vie où tu te rends compte que t'es esclave de ça.
Un peu de paix, c'est pas mal.
Ça fait du bien. Donc, moi, j'aime bien choisir en fait ce que je vois, ce que je scroll.
Ne pas avoir à subir en fait.
J'ai pas envie
comprends.
De subir.
Mais t'as raison, c'est des choses qu'on se force à subir, peut se l'éviter. Donc
à
si
la
on
fois,
peut...
c'est le jeu. Quand tu fais, c'est un métier public, c'est comme ça. Mais il y a des réseaux que j'ai plus envie de subir. Ouais.
On va en profiter pour écouter du Julien Doré, tiens, si ça te dit.
Ah ouais,
t'as envie de quoi là Paris-Séchelles ou nous
nous, j'adore.
Nous. Allez, eh bien, on écoute nous. Et dans un instant, on va parler de l'album Charlotte de Vita. Paraît-il ton dernier album. Elle va te nous dire juste après. Nous, avec Julien Doré.
Tous les samedis, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
Vita est toujours avec nous ce matin sur M Radio. On est très content de la voir en ce samedi matin, puisqu'en principe, elle nous l'a dit, elle dort jusqu'à midi au moins. Mais l'un des tubes de son dernier album, ça se passe pas le samedi, ça se passe plutôt le dimanche.
Le monde peut crier plus fort là-bas, et le tonnerre gronder plus fort là-bas. Je n'ai rien à craindre dans tes bras, tu vois.
Un dimanche avec toi. Voilà, c'est un samedi, encore single d'or, hein, plus de 15 millions de streams. T'as quand même une capacité à signer des tubes qui rentrent dans les oreilles des gens, qui accrochent, qui... Alors là, c'est encore ton complice Slimane qui a travaillé avec toi sur cette chanson.
Ouais, Renaud. Mais c'est vrai que pourtant, c'est tellement pas évident. Moi, je dis toujours que la musique, c'est pas une science exacte. Et quand t'es en studio, tu sais jamais le destin que va connaître une chanson, un album.
Est-ce que tu te rends pas compte quand, à un moment donné, il y a une mélodie, il y a quelque chose, tu te dis, ah là, on tient un truc.
T'as toujours un peu ce sentiment d'avoir un refrain efficace, on sait globalement si une chanson est assez efficace, mais est-ce qu'elle va accrocher, est-ce qu'elle va rentrer dans le cœur des gens. Je pense à des chansons comme Avant toi sur l'album avec Slimane, comme À fleur de toi, moi qui est un peu mon emblème.
On peut jamais savoir avant.
C'est des chansons comme ça qui d'un coup, il se passe un truc, ils connaissent un espèce de destin magique, ça tu peux pas l'anticiper. Qu'une chanson soit assez forte, oui. Qu'une chanson se transforme en tube, non. Moi, j'ai tout, il y a des sentiers. Par exemple, cette chanson, Un dimanche avec toi, c'est une chanson qui était dans l'album depuis depuis le départ, qu'on a envoyé. C'était le dernier single
oui,
de cet album.
C'est pas le premier que vous avez
quand
sorti.
Quand j'étais en pleine tournée. Mmh. Et elle a connu un destin comme ça incroyable. Et c'est rare dans un album qui est sorti déjà d'avoir une chanson qui devient un peu comme un inédit. Et c'est pas évident, non.
Oui, c'est rarement le quatrième extrait qui devient un tube.
Et là, c'est plutôt le cas de cette chanson.
Non, mais c'est incroyable.
Je me souviens que c'était, je faisais mes courses dans des petites supérettes et je l'entendais partout. Et je me disais, c'est fou quand même. Pareil, je faisais mes...
C'est génial.
Donc tu sais jamais, en fait.
Comment ça se fait que tu dises que c'est ton dernier album solo?
Non, c'est mon dernier album solo.
Non, mais ça, c'est sûr, parce
ouais,
que
c'est,
t'es
c'était
jeune
avant
encore.
Même que je l'ai conçu comme ça, je l'ai écrit comme ça.
Oui, mais enfin, t'as juste 40 ans,
ouais,
c'est tôt.
J'ai 40 ans à peine. Ça veut pas dire que c'est la fin de ma carrière, mais ça veut dire que je pense que la musique est en train de changer. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte. Je pense que le format album, il est en train de disparaître.
Ouais.
Je crois que d'ici 5-6 ans, est-ce qu'on sortira encore des formats album purs, physiques? Moi, je suis une artiste qui vient du physique.
Ouais.
Je suis une artiste.
Toi,
quand j'ai démarré ma carrière,
t'as mis un objet disque.
Oui,
aussi.
Et puis voilà, quand j'ai démarré ma carrière, mon album était record des ventes. C'était une autre époque où on vendait beaucoup, beaucoup de disques physiques. On allait en magasin faire des dédicaces. Moi, je suis une artiste qui vend beaucoup en province. Défendre un album quand je sors un album, quand tu rentres en studio, que t'es auteur-compo, c'est des mois et des mois de remise en question pour te dire comment livrer encore un projet où je vais innover, comment je vais encore toucher les gens. Je crois que ça va trop vite aujourd'hui. La musique, c'est plus comme ça qu'on fait de la musique.
Donc, aujourd'hui, t'as envie de faire autrement.
Aujourd'hui, on envoie des sons, comme ça on envoie du son, il faut envoyer beaucoup plus rapidement. On est moins dans une ère qualitative, on est plus dans une ère quantitative, ce qui me dérange un peu parce que je suis pas de ce format-là. Mais je pense que la musique se fait différemment. Donc je vais faire de la musique différemment. Je vais encore monter sur scène, je vais envoyer encore des idées.
Oui, ça veut pas dire que tu t'arrêtes.
Ça veut pas dire que je m'arrête. Mais ça veut dire que sortir un album solo comme je l'ai toujours fait, où pendant un an et demi je me prends la tête, qu'est-ce que je vais raconter? Non, je le ferai plus. Charlotte, c'était mon dernier album solo. Ouais.
Et dans l'album solo, donc, Charlotte. Single, la chanson Charlotte.
J'ai vu combien qui est l'intro de l'album.
Exactement. La chanson titre de l'album. Charlotte, ton vrai prénom que tu n'aimes pas, donc.
Que j'ai jamais aimé, ouais, que j'ai toujours caché. Ça m'arrangeait bien de prendre ce nom de scène qui était un peu mon armure, Vita.
Alors c'est quoi? C'est pour te réconcilier avec toi-même que tu as appelé cet album Charlotte?
Ouais, c'était pour essayer de faire le lien et puis surtout, je crois, d'être vraiment dans cette démarche très très sincère avec mon public, de leur dire si c'est le dernier... je vais enlever toutes les dernières couvertures que j'ai pas osé enlever et je vais vous montrer aussi les cicatrices, je vais vous montrer aussi les complexes, les failles. Et j'ai sorti un documentaire en même temps qui s'appelait Je m'appelle Charlotte, où je me suis dit, bon, et voilà, c'est le moment de le dire, je le ferai pas après.
Tu te livres, quoi, en fait, c'est ça.
Et complètement, et ça a été très dur pour moi, c'est-à-dire que l'idée d'appeler l'album Charlotte venait pas de moi, et j'ai dit impossible. Au début, impossible. Hors de question, ouais. No way. Et puis après, je me suis dit, en fait, si tu le fais pas maintenant... Et c'était comme tu dis, un peu pour me réconcilier.
Mais tu boucles la boucle d'une certaine manière.
Je crois que ça m'a aidé un peu, parce que quand je suis en concert, dans des zéniths, j'entends des gens qui m'appellent Charlotte. Ça m'a perturbée au début sur scène.
Maintenant, t'assumes.
Maintenant, ça y est, en fait. J'aime bien le fait qu'ils me connaissent, ils savent.
Ce qui est choquant pour ton public, quand même, c'est le clip. Parce
ouais.
que tu organises tes propres funérailles dans le clip.
C'est
quand même flippant.
C'est les funérailles de Vita et c'est Charlotte, en fait, c'est l'âme de Charlotte qui reprend le dessus et qui explique que derrière l'artiste, c'était Charlotte, les failles, c'était Charlotte, les histoires, l'intimité, tout ce qui les a touchés, c'était Charlotte. C'était une manière forte, je trouve, dans l'image de revenir.
Ouais.
Je trouvais ça intéressant de revenir avec un concept.
C'est provoque aussi.
Ouais, complètement. C'est un clip qui a fait beaucoup parler. C'est un de mes clips préférés. Ma mère l'a détesté.
Moi, j'imagine. Alors, tu m'étonnes. Ça n'a pas dû lui plaire. Hein. Elle s'appelle comment ta maman?
Quelle idée. Okay. Ma maman s'appelle Vita.
Ah, oui, c'est Vita. Oui, pardon. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Vita, madame, vous avez raison. Elle a un peu abusé, votre fille, sur ce coup-là.
Ah, ouais, ma mère.
Parce qu'organiser ses funérailles dans le clip. Rassure-moi,
après, c'était fait quand même de façon poétique.
Tu lui avais pas demandé d'être figurante.
Non, mais elle l'a refusé. Ma mère, ça a un caractère. Alors, moi, je lui fais pas faire un truc qu'elle veut pas faire. Mais ma mère était scandalisée par ce clip, ouais.
Est-ce que c'est une façon aussi de te réapproprier ta vie, cet album-là, finalement?
Oui,
de redevenir toi-même d'une certaine manière et plus être simplement le personnage médiatique.
Ouais, de dire aussi, moi j'ai toujours fait une séparation entre Vita et Charlotte, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire quand je rentre chez moi, je suis madame tout le monde, je laisse Vita devant la porte, j'aime bien ce cadre-là, je me le suis instauré au début de ma carrière, je pense que c'est ce qui m'a permis de vraiment jamais péter les plombs, j'ai toujours au contraire parfois mis ma carrière au second plan, parce que ma priorité c'était ma vie de famille, c'était ma vie de femme, c'était ma vie d'épouse, au détriment souvent de ce métier, où on te le fait comprendre qu'à un moment donné les médias ils veulent tout ça. avoir. Tu dois faire cette démarche aussi d'être people. Moi, je n'aimais pas le faire, je ne l'ai pas fait.
Toi, tu es resté pur, entre guillemets. Tu es resté,
moi,
en tout cas, dans ce que tu voulais.
Moi, je suis surtout un peu égoïste, je dis très honnêtement. Ma carrière, pour moi, à des moments, je la mettais au second plan. Mon public, c'était ce qui m'intéressait. Les médias m'intéressaient moins parce que je sentais que je ne les intéressais pas non plus. Quand ça marche moins, on te le fait comprendre que tu n'es pas un artiste people, tu vas le sentir. Tu vas le sentir qu'on ne va pas t'inviter dans certaines émissions.
Mais moi, c'était une façon de te protéger.
C'était une façon, moi, de me protéger totalement. C'était, moi, ma façon de me sentir à l'abri, de me sentir peut-être un peu loin d'un métier qui me faisait peur parce que j'ai vu plein d'amis artistes à moi en souffrir et péter un câble.
On peut parler de Diams, évidemment.
Bien sûr.
Qui a préféré tout arrêter parce qu'elle n'était plus en phase avec cette
souffert,
vie.
Parce qu'elle en a souffert. Exactement. On peut parler de Stromae aussi.
Avec qui tu as travaillé aussi.
Qui a fait des choix aussi que je comprends totalement parce que c'est un métier qui peut rendre fou si tu ne mets pas tes priorités au centre et si tu n'es pas en adéquation avec ce que tu fais. Et puis, je crois que si tu n'as pas un cadre très, très sain, tu peux devenir fou.
On va justement écouter Diams, Jeune Demoiselle, ça te va?
On peut choisir d'autres titres, mais j'adore Jeune Demoiselle aussi.
Jeune Demoiselle de Diams, et on continue de parler dans un instant avec Vita de sa vie, de la vie, de la musique évidemment, parce que la musique c'est ta vie, forcément. Ouais, allez, Jeune Demoiselle qui recherche un mec mortel, paraît-il. A tout de suite sur M Radio. M Radio, M
Radio. Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
Et bienvenue à Vita sur M Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour parler de tout et maintenant j'ai envie de parler de toi. J'essaie de t'oublier avec un mot. Parce que depuis que t'as commencé à chanter, tu te dévoiles, c'est quand même ton histoire, tes histoires que tu racontes. J'ai l'impression qu'avec les mecs, c'était pas terrible au début.
C'est chaotique, je peux le dire.
Parce que t'as que des chansons où c'était une catastrophe, en fait. Tu te faisais tromper.
Bien sûr. Bah, d'ailleurs, j'étais un peu à l'époque, on m'a mis dans cette catégorie à pleurer tout le temps.
Ben oui, c'est ça.
À la fois, ce premier album, c'était mon journal intime. Je parle d'un homme en particulier. Ouais. C'est vraiment cette rupture à fleur de toi. C'était moi, mes histoires de très jeune femme, mais c'était peut-être une de mes histoires les plus fortes et les plus violentes, peut-être les plus toxiques.
Mais qui t'a permis d'être artiste aussi.
C'est une blessure et je pense que dans ces chansons-là, de toute façon, tu triches pas. C'est des histoires que tu vis, que tu racontes. Quand j'écris cette chanson, moi, dans ma petite chambre à Lyon, dans mon petit appart, je suis à des kilomètres de me dire qu'un jour, je vais chanter devant des salles en France, devant des milliers de gens.
Ça, tu te projetais pas en train de chanter ça au Zénith devant 15 000 personnes.
Mais pas du tout. J'ai écrit cette chanson dans ma petite chambre, sur mon petit clavier. J'ai besoin de me soigner, en fait. Moi, à ce moment-là, ça passe par là. Moi, c'est venu par l'écriture, la musique, avant même de chanter.
Oui, donc, d'abord, c'était l'écriture.
C'était vraiment l'écriture. Ouais, donc c'est vraiment une volonté de raconter cette histoire, de raconter mon histoire et puis de passer à autre chose dans ma vie. Et souvent, quand j'écris, j'y pense plus, je passe à autre chose.
Bon, là, t'es heureuse.
Je suis très heureuse. Je suis mariée depuis 15 ans quasiment.
Parce qu'on a suivi ça aussi, même si tu n'as pas joué le jeu de la presse people, évidemment. Ouais. On sait que t'es mariée, t'es heureuse, t'as des enfants. Trois enfants, c'est ça?
Trois enfants, deux belles filles, une famille recomposée.
Donc ça fait du monde à gérer, cinq à la
maison.
Ouais,
c'est du boulot, hein. C'est des tournées, des allers-retours. Quand mon fils le premier est né, me suis dit j'ai l'impression que avant ça, qu'en fait il avait toujours été là. Je sais pas si ça t'a fait ça avec tes enfants, mais t'as le sentiment, en fait, ta vie est tellement bouleversée, c'est tellement fort, que t'as l'impression qu'il a toujours été là.
Oui, je vois ce que
j'ai oublié un peu.
Tu te dis pas, mais qu'est-ce que je faisais avant?
Ouais.
Que c'est pas possible, ça n'existait pas en fait avant.
Exactement.
Mais je vois complètement ce que tu veux dire.
Tu vois ce truc de te dire, mais en fait j'ai le sentiment que toute ma vie ça a toujours été ça. Et d'ailleurs, quand je suis tombée enceinte, après j'ai eu envie de faire que ça, et puis après ça revient et tu te dis voilà, l'inspire revient et tu te dis ah ouais non, je pense que je peux tout faire et j'ai envie de raconter aussi ce que je vis parce que c'est très fort. Et puis après j'ai allié ma vie de femme avec ma vie de mère et ma vie d'artiste, et c'est une grande organisation quand on est une femme et que
ça, j'imagine, parce que donc deux garçons, une petite fille, plus deux belles filles. Et alors c'est marrant parce que on parlait de la presse people tout à l'heure, c'est pas la peine de lire la presse people parce qu'en fait si on veut savoir un peu ce qui t'arrive dans ta vie, il suffit d'écouter tes chansons. Et il y a une chanson qui s'appelle Ton amoureuse, justement, dans le dernier album, qui pour ton fils, de la difficulté de laisser les enfants s'envoler et prendre leur envol, de leur proposer, et trouver pourquoi pas l'amour. Et maman, elle peut être jalouse, écoutez.
Tu veux m'en placer?
Il y a une vraie double lecture de cette chanson, et il y a des gens qui l'ont prise pour une chanson d'amour.
Ouais.
C'est une déclaration d'amour, c'est une autre forme d'amour.
Mais alors, est-ce que
j'anticipe parce que mon plus grand a 14 ans, mais
ouais,
j'ai
mais
un lien très
des,
fort.
Il commence à avoir des amoureuses.
Bah, là, il est dans l'adolescence, donc c'est les problèmes, c'est déjà le caractère. Et voilà,
attends,
et
t'as vraiment peur qu'il t'oublie une fois qu'il aura trouvé une amoureuse parce que ça lui met la pression là maintenant.
Le lien mère-fils, quand même, c'est très très fort. Moi, j'ai un lien avec mon fils, le premier, qui est vraiment très très fort. Et voilà, et je pense, moi, je suis quand même une grande angoissée où j'ai toujours eu peur de la solitude. C'est d'ailleurs. Ce premier album parle de ça aussi. J'ai toujours eu peur d'être abandonnée. J'ai toujours eu peur de ne pas trouver l'homme de ma vie. Quand je l'ai trouvé, après, je me suis dit, il va me laisser. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, un jour, ils vont partir. Moi, je suis toujours quelqu'un comme ça, quand ils suivent un peu. Je suis un peu drama queen.
Peut-être,
hein,
oui, un peu. Ça allait quand même drama queen.
Ouais,
mais alors, le truc, c'est que là, si jamais il y a une belle fille potentielle qui nous écoute.
Bah, j'espère.
Oh, la pression. Parce que là. Là, elle va les regarder. J'espère que.
Mais le nombre de copines ou de fans qui m'ont écrit pour me dire, mais tu sais, moi, je pense tellement comme toi. Enfin, en fait, je pense qu'on est toutes un peu comme ça. On anticipe toujours un peu ça. Moi, bon, je l'accueillerai bien sûr avec beaucoup d'amour.
Mais elle a intérêt
à
être à la hauteur quand même. Hein. Ça rigole pas. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la jolie vie de Vita. Et si jamais vous voulez en savoir plus, écoutez ses chansons. Finalement, elle dit tout dans ses chansons.
C'est vrai que j'ai raconté beaucoup de
choses.
Elle
dit tout.
M-Radio. Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
On est toujours ensemble sur M Radio dans Bienvenue chez Beaugrand. Alors, j'avais envie, tu parles de beaucoup de moments de ta vie. J'avais envie de te parler d'un épisode que nous avons en commun. Parce que.
Triste épisode. Hein.
Voilà, j'ai été victime d'un homejacking il y a quelques mois, il y a 6 mois. Toi, c'était il y a 2 ans.
Ouais.
Alors, je ne vais pas te demander de revenir sur ce qui s'est passé en détail, évidemment, mais est-ce que ce qui s'est passé, c'est aussi ça qui, peut-être, t'a donné envie de te mettre un peu plus en retrait et de se dire, bon. J'ai plus envie de me mettre en avant. J'étais peut-être été trop exposée. Est-ce qu'il y a eu ça aussi qui t'a choqué, qui t'a donné envie?
Moi, tu sais, j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez discret. C'est-à-dire qu'en dehors de mes apparitions, on va dire liées à mon métier, je suis pas quelqu'un qui sort. Bon, je suis très casanière. Je suis beaucoup chez moi. Je suis pas quelqu'un qui montre, qui vit dans l'opulence et qui le montre et qui voilà. Comme tout le monde, je vais en vacances. Bah, j'aime bien montrer où je suis. Mais moi, je suis très voilà. Maintenant, évidemment, que quand ce drame est arrivé, je me suis posé ces questions-là. Et je sais qu'ils avaient ciblé, comme toi, ils ne sont pas venus chez moi au hasard. Par la suite, parce que j'ai rencontré la juge et que je suis rentrée dans le dossier, j'ai vu que ça faisait des mois qu'ils ciblaient, qu'ils regardaient sur les réseaux sociaux, qu'ils ont fait leur shopping sur les réseaux sociaux, à savoir ce qu'ils venaient chercher chez moi, que carrément, ils ont fait des plans et des trucs pour voir où j'habitais. Tu deviens parano à un moment donné, tu te dis c'est ça ma vie aussi. Évidemment que tu fais le lien avec la notoriété et que tu te dis bon, est-ce que si j'étais alors même s'ils vont parfois ils rentrent chez des gens au hasard aussi, mais je veux dire là, moi j'ai eu je sais pas si toi t'as eu ça, mais j'ai eu quand même ce sentiment de culpabilité de me dire mes enfants, finalement je les expose sans le vouloir parce que c'est mon métier qui veut ça. Mais oui, je me suis dit dans les années à venir, j'aimerais bien quand même un peu retourner un peu dans l'ombre et faire ce que j'aime parce que j'écris pour d'autres artistes et finalement être un peu plus dans l'ombre et moins dans la lumière et revenir peut-être à des moments sur d'autres projets. Mais oui, évidemment que ça pose la question de la notoriété et que tu te dis c'est difficile finalement d'être exposé et,
parce
et
que les enfants n'ont rien demandé. Les parents ou la maman en l'occurrence est célèbre. Et les enfants, ils vont à l'école, ils font leur vie.
C'est d'ailleurs pour ça que moi, par exemple, je déracine
pas
mes enfants, je les emmène pas en tournée, je veux pas qu'ils soient publics. Bon, et voilà, et puis ça pose toutes ces questions-là. Et ouais, je me suis posé toutes ces questions-là. Ouais.
Et alors, ce qui est terrible quand ça t'arrive, c'est parfois c'est l'inversion des choses. Moi, ce qui m'est arrivé, on te dit, mais c'est de votre faute, monsieur, vous montrez trop votre vie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on t'a fait un peu des reproches comme ça? Vous en dites trop sur votre vie, donc genre un peu, bah, c'est un peu là. La femme qui se fait agresser, vous n'aviez pas qu'à porter une mini-jupe.
Ouais.
Quoi. C'est un peu cette espèce d'inversion de la culpabilité.
Sûr. Alors moi, je l'ai ressenti sans qu'on me fasse la réflexion. C'est-à-dire quand j'ai découvert qu'ils faisaient leur shopping à travers les réseaux sociaux et qu'en fait, ils vont choisir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je vis plus de la même manière.
Oui, tu fais hyper gaffe maintenant, évidemment.
Bah, déjà, j'ai changé même de vie en termes de sécurité. J'ai dû faire des aménagements qui ne sont pas gratuits, mais parce que j'avais besoin de tranquillité. Et surtout, je communique différemment. C'est-à-dire que je communique plus à l'instant. Je communique en différé, je poste, puis il y a plein de choses que je montre plus. Avant de faire un poste, je réfléchis. Ça a changé ma façon de vivre, de penser, de communiquer. Ouais.
Alors, les malfaiteurs ont été arrêtés. Je crois que le procès va bientôt avoir lieu. Est-ce que c'est un moment que tu attends, que tu redoutes? Est-ce que tu tu aimerais les voir en face à un moment
Moi, je suis très croyante. Donc, ça, l'après était, pour moi, le plus. C'est marrant, mais moi, j'ai tellement vécu ce truc comme en état de choc où, en fait, je crois que je n'ai pas réalisé véritablement ce qui s'est passé sur le moment. C'est après.
Oui, c'est un état de sidération, quoi. C'est-à-dire
j'ai pas pleuré. Mais après, j'ai eu des nuits très, très difficiles encore aujourd'hui. Je vis difficilement, c'est-à-dire que ça a chamboulé plein de choses. Déjà pour moi ils ont été arrêtés tout de suite, donc je pense qu'ils n'ont pas eu ils ont eu ce qu'ils méritaient. Est-ce que j'attends comme ça, je vis pas tous les jours dans la revanche en me disant voilà, je pense que ils vont être jugés, je suis très contente qu'ils soient jugés pour ce qu'ils ont fait.
Ça va t'aider à passer à autre chose aussi, psychologiquement.
J'essaie vraiment dans le quotidien de passer à autre chose. Il y a des moments où je me rends compte que je suis pas vraiment passée à autre chose, il y a des moments où j'ai des sursauts sur des trucs, ça m'arrive encore, mais voilà, je pense que la justice a très très bien fait son travail, j'en suis ravie. Je trouve ça dramatique dans notre pays on vive ça, c'est parce que je trouve que vraiment en France c'est difficile. J'espère que ça va se calmer. J'avais le sentiment que ça s'était calmé, et puis quand ça t'est arrivé à toi, j'étais vraiment.
Et ça recommence en fait.
Ah ouais, j'étais triste pour toi et je me suis dit donc c'est pas terminé, tu vois. J'espère qu'avec le temps, on arrivera dans notre pays à vivre en sécurité, parce que moi j'aime mon pays et j'aime vivre ici. J'ai pas envie d'avoir à partir, mais j'y pense, je te le dis honnêtement, tu vois.
Mais tu te poses la question.
Ouais, on y pense, ouais.
Vita est toujours avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les plus grands succès de ta carrière. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et on va en réécouter quelques-uns. On se retrouve dans un instant sur M-Radio. M-Radio,
M-Radio. De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
Vita est avec nous, ce bat. On va la refaire. D'attaque, je suis tout perturbé. On parle de slip et là, voilà, il ne faut pas grand-chose.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
Vita est avec nous ce matin dans Bienvenue chez Beaugrand jusqu'à midi. Et maintenant, on va ouvrir la boîte à souvenirs.
Ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse ses messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur.
Ça fait donc 20 ans. Déjà ? Ça va faire 20 ans là, ouais. C'est terrible. Gigantesque tube évidemment, Diams, Vita. Je lisais une étude, c'est dans le top 3 des karaokés préférés des Français. Des gens adorent chanter cette chanson, donc tout le monde connaît cette chanson. Beaucoup de générations, c'est incroyable. Là, il s'est vraiment passé un truc magique qui t'a dépassé.
C'est ce que je te disais, c'est cette espèce de déclic, d'un coup il se passe un truc et puis il y a une magie qui fait qu'une chanson traverse le temps comme ça. Moi, je suis fascinée par le dessin de cette chanson. C'est-à-dire que ce qui est incroyable avec cette chanson, c'est que, alors elle est adorée des Français, karaoké, etc. Mais même les petits, tu vois, qui n'étaient pas nés, la connaissent par cœur.
Oui, c'est devenu une référence, entre guillemets.
Elle est
cette
générationnelle,
c'est
marrant, elle est transgénérationnelle, et je le vois en concert, parce que moi j'ai un public qui est très familial, et t'as les nanas de mon âge qui viennent avec leur mère, qui viennent avec leurs enfants.
Et tout le monde connaît.
Et tout le monde chante.
Ça, c'est génial. Faut savoir qu'avant, tu avais galéré, t'as fait pas mal de featuring avec des artistes, notamment des rappeurs, mais ça décollait jamais, en fait, pour
ça
toi.
Ça a été très compliqué, ouais.
Il paraît que t'es restée très longtemps vendeuse dans un magasin, jusqu'à très peu de temps avant la sortie de Confession.
Très peu de temps avant ma signature, parce que moi j'étais comme très angoissée, et j'avais toujours cette peur. Puis moi, je suis partie jeune de chez mes parents, donc j'avais mon loyer à charge.
Fallait que tu t'occupes de ta vie, quoi.
Fallait que je paye mon loyer. Et voilà. Et parallèlement, les rappeurs m'appelaient. J'ai eu la chance de chanter sur des grosses compiles à l'époque de rap, de R&B.
Oui, mais là, on te filait un billet pour enregistrer ta voix.
Tu prenais un cachet, tu venais. C'était un espèce de début de notoriété dans ce métier-là. On
mais
va dire les gens du métier.
C'était mais pas suffisant.
Pas du grand public. Ouais. Les rappeurs m'appelaient pour faire un refrain. Voilà. Mais parallèlement, avec mon manager de l'époque, pendant 6 ans, on démarche toutes les maisons de disques avec toutes les chansons de ce premier album à Fleur de Toi, qui étaient ces chansons-là, qui étaient maquettées.
Et personne n'en voulait.
Personne n'en voulait. Tout le monde disait que c'était compliqué, qu'ils ne voyaient pas le. Ça ira sur quel média, c'est qui la cible, c'est du R&B, mais c'est de la variété en même temps, parce que moi j'étais un peu à mi-chemin entre les deux.
Oui, c'est
et
ça,
Et c'est ce qui me portait un peu préjudice.
C'est ce qui a été ta force ensuite, mais au début, on ne comprenait pas, on ne savait pas où te mettre.
Ouais, c'était un problème. Et puis il y a eu Confession Nocturne qui a été ma porte d'entrée, en fait. Et le titre sort en plein été, qui était sur l'album de Diams, qui n'avait rien d'un single. Ce titre, il dure 5 minutes avec des interludes de portes, de coups de voiture.
Il
n'y
avait pas un refrain en tétan.
Pas du tout, il
n'y
a pas de refrain d'ailleurs. C'est une chanson qui n'avait rien d'un tube.
Ça raconte une histoire.
Ça raconte une histoire. C'est une espèce de road movie de copines où on raconte nos vies. Et ça devient une espèce de tube phénoménal. C'est d'ailleurs un des plus gros tubes de son album.
C'est là où
toutes les maisons de disques nous rappellent pour dire on veut écouter l'album de Vita. Ils avaient déjà tout écouté, bien sûr. Et là, tout le monde se fait la guerre pour signer mon album.
C'est génial.
C'est là où je comprends que c'est vraiment un métier de timing aussi, où il faut être patient.
C'est une belle belle revanche.
Et d'opportunité aussi, c'est une très belle revanche. Mais je l'ai pas pris comme j'étais pas hargneuse, moi j'étais patiente finalement. Mais c'est vrai que j'étais dépitée. Je m'étais donné 3 mois pour partir vivre ailleurs à l'étranger. Je m'étais dit ça y est, ça marchera jamais.
Ça faisait 6 ans que tu galérais et tu t'es dit là dans les 3 mois si ça marche pas, j'arrête.
Et j'allais partir, ouais, parce que je faisais des études de langue parallèlement.
Et du coup, et puis, c'est là que ça a démarré.
Et j'ai signé mon premier album et puis ça a démarré comme ça.
Et oui, puis il y a plein d'autres succès. Il y a eu Ma Sœur par exemple, gros succès. Et puis aussi l'énorme carton à Fleur de Toi, on en parlait bien sûr. Là, c'est plus de 400 000 exemplaires pour ce premier album.
800 000 au final.
Ah oui,
fini à 800
000, ça a commencé à 400 000.
Ouais. Là, tu fais 400 000 très très vite et aujourd'hui il a fait quasiment 1 million.
Là tu fais quoi à ce moment-là, tu flambes, tu dis ça y est, je suis tranquille.
Pas du tout. Pas. Moi je suis pas, c'est pas dans ma nature. D'ailleurs la semaine de sortie de cet album, je voulais tellement pas avoir la pression des gens, des chiffres, des trucs.
Ouais.
J'avais éteint mon téléphone et je l'avais donné à mon manager et donc je ne savais pas ce qui se passait. Et on était sur le Zénith d'Orléans avec Jams parce que je faisais ses premières parties.
Ouais.
Et on apprend le chiffre de la première semaine qui était
énorme,
qui était le record de vente de cette année 2007. On avait fait 63 ou 65 000.
En une
ce qui
semaine.
C'est énorme pour un nouvel artiste. Et il y avait la trappe par laquelle elle monte sur scène qui était baissée. Et elle apprend et elle reçoit les chiffres parce qu'elle, c'était ma directrice
donc
artistique.
Donc Jams, ouais.
Elle court comme ça pour dire « J'ai rasé la chef de... » Et elle tombe dans la trappe
oh,
et
mince.
On entend «
Ah, il est tombé dans le
et
trou !»
Et là, tout le monde... Et elle, avait un... et elle s'est cassé le bras. Hein, quand
ah, mince
et le sol,
ah, bah, elle s'en rappelle de ton
elle,
succès,
elle
alors.
Elle est montée sur scène avec son plâtre. Non, mais c'était... Alors, nous, on était morts de rire. Puis après, c'était très grave parce que c'était son show qui était en péril. Mais pour te dire la folie de cette semaine-là où on découvre que l'album, c'est un gros carton, ouais.
Et alors là, l'album suivant marche un peu moins bien, donc
ouais, l'album suivant marche vraiment moins bien.
Ça permet aussi de relativiser, mais après il y a des tubes qui continuent évidemment, notamment énorme Game Over avec Gims.
Ouais, mais à la fois, c'est ce qui te montre que ce métier-là, t'es jamais arrivé en fait. Tu repars à zéro à chaque album.
Faut se réinventer.
J'ai fait un espèce de break aussi moi après ce premier album parce que j'ai voulu me marier, construire ma vie de femme. Les médias te le font payer, c'est ce que je t'expliquais aussi. Donc, il a fallu reconstruire et j'ai reconstruit jusqu'à l'album Ici et Maintenant, où on vient d'écouter Game Over. Et puis, jusqu'à renouer vraiment avec le succès, avec l'album J4M, qui a fini double platine, où vraiment, j'ai vécu une espèce de traversée du désert hein, pendant 6-7 ans. Derrière moi, ça n'a jamais été facile pour
toi,
moi.
Toi, ça a toujours... Il y a eu en dents de scie, on va dire, c'est ça.
Mais une carrière, c'est comme ça. T'as pas un artiste qui connaît pas un flop à un moment donné dans sa vie. C'est comme ça, t'es obligé de passer par là.
J'ai envie d'écouter un autre duo que j'adore avec Ludo Capéo.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus le temps.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus le temps.
Pour le coup, t'es vraiment une chanteuse qui aime partager. Et toi, les duos, c'est ton. Enfin, t'adores travailler avec
c'est
d'autres aussi.
C'est un truc que j'aime beaucoup bah parce que aussi, j'ai un peu commencé comme ça. J'étais appelée par beaucoup d'artistes. Je trouve que c'est une façon aussi de proposer parfois un univers différent, de mélanger des univers qui n'ont rien à voir et de faire un truc un peu hybride. Bah, c'est l'histoire de cette chanson, Un peu de rêve, par exemple, où on m'attend pas du tout avec Claudio. D'ailleurs, Claudio me raconte à l'époque que toute son équipe lui dit faut pas le faire, pas du tout. Il a d'ailleurs viré sa manageuse à l'époque. Il me l'a raconté hein, cette histoire.
C'est drôle.
Parce que lui voulait le faire, son équipe voulait pas le faire.
Parce qu'il disait quoi ? Il disait c'est pas ton univers.
Vita,
ça colle pas.
Vita, c'est pas du tout ton univers, c'est pas pour toi. Et ça a été un énorme tube. Donc
ah bah oui.
Il était content d'avoir viré sa manageuse. Il me l'a dit.
Mais il y a pas de question d'ego en fait. C'est ça qui est intéressant aussi.
Moi, je fais pas de la musique avec.
Travailler avec.
Moi, je pense vraiment pas être une artiste avec beaucoup d'ego, très honnêtement, parce que déjà j'aime bien être me mettre au service des artistes avec qui je travaille. Quand je bosse en tant qu'auteur compo aussi, je me mets vraiment dans la peau de la personne pour qui je bosse.
Ouais.
Sinon, je pense que tu fais pas des bonnes chansons. Et moi, j'essaye toujours de mettre mon talent au service de la chanson. C'est comme ça que je travaille, tu vois. Et du coup, ben, quand je fais un duo avec un artiste, j'aime bien entrer dans son univers, voir un peu ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Et je trouve que ça permet de faire de la musique aussi plus forte. Et je trouve qu'aux États-Unis, les artistes le font tellement bien et depuis tellement longtemps, sans se regarder le nombril. Tu vois, ils mettent le talent au service de la musique et ils essayent de faire des choses folles. Je trouve qu'en France, c'est plus compliqué. Ça commence un peu à se débloquer, mais...
Mais c'est plus rare, oui, c'est vrai.
C'est plus rare. Les gens ont toujours peur un peu pour leur place, pour leur truc, pour leur petite carrière. Et du coup, moi, j'aime bien le faire, ouais.
Et puis, il y a évidemment la collaboration avec Slimane.
Ouais. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel.
C'est notre chanson préférée de cet album avec Slimane. Avant toi.
Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'il paraît que vous vouliez pas trop le faire, cet album de duo,
ouais,
au début.
Non, on voulait pas le faire.
Donc, il s'est imposé tout seul.
Bah, ouais, je l'invite, moi, sur la réédition de mon album J4M. On fait Je te le donne, qui a été un gros succès.
C'est ce qui a été le point de départ, en fait.
Ça a été un peu le déclencheur. Et là, tout le monde nous dit, mais il y a un truc dans vos deux voix ensemble.
Ah, c'est vrai qu'elle se marie à merveille.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Et puis, on se dit, il faut faire l'album. Et on n'avait pas envie. Et puis, on a fait du studio. On a fait 4-5 chansons comme ça, très belles. Ouais. Et on s'est dit, ouais. Il y a un truc. Et on a fait l'album comme ça.
Et un succès gigantesque. Là, ouais. L'album Versus, ça a été un truc
disons
de
que
dingue.
Là, dans cette industrie-là, qui fait 1 million, c'est très, très dur. Hein,
bah, plus personne. Aujourd'hui, on achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de disques qu'il y a 20 ou 30 ans.
Bah, le volume.
Même 10 ans, physique, d'ailleurs.
Ouais, il a complètement baissé. Après, il y a le streaming. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on voit que l'album... ça a été un espèce de phénomène, cet album Versus. C'est une espèce de parenthèse enchantée, on se le dit toujours avec Slimane. Derrière, il y a la tournée, on fait plus de 110 dates de concerts. On se mange le Covid au milieu, on est en stand-by, on repart en tournée, les gens reviennent nous voir. C'est vraiment un espèce de conte de fées, cet album, et surtout notre amitié, parce qu'il faut le dire, au-delà de la musique, Slimane, c'est comme mon frère.
C'est vraiment comme un frère.
Ouais, moi, quand je suis en studio, encore pour mon dernier album, je l'appelle, on fait des chansons ensemble, on a eu nos filles en même temps, on a emmené nos filles en tournée en même temps, partagé les couches, les tables allongées, tu sais ce que c'est. Et du coup, y a un lien très très fort, ouais.
Et alors justement, un frère, on ne le lâche pas, même quand il a des soucis, quand il a fait des erreurs, etc. Comment, je ne vais pas te demander de parler plus précisément de ce qui a pu se passer, mais tu as vécu comment les difficultés de quelqu'un qui est comme un frère pour toi? Tu as été là pour le soutenir?
Moi, c'est mon ami, donc, mais c'est plus que mon ami, c'est comme ma famille.
Ouais.
Quand tu soutiens quelqu'un, tu es avec lui dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que tu cautionnes tout ce qu'il fait, que tu cautionnes... La famille, c'est comme ça. Moi, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai une mère. On s'engueule, parfois on n'est pas d'accord. Mais quand il traverse une épreuve, tu es là. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est ma conception, c'est mes valeurs, en tout cas.
On peut faire des erreurs, on peut se faire pardonner, on peut continuer.
Exactement.
Il le raconte très bien dans son nouvel album, d'ailleurs.
Pardon, bien sûr. En tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs. Et voilà, et l'amitié, la solidité d'un lien, c'est comme ça que tu le vois, c'est dans l'épreuve. Et ouais, bien sûr, en tout cas, si la question c'est est-ce que ça a entaché notre lien, pas du tout. C'est mon frère et ça restera mon frère.
Et d'ailleurs, le public est toujours là, puisqu'on a vu que l'album démarrait très bien.
Il est tellement aimé.
Et les gens avaient envie de le retrouver.
Bien sûr, bien sûr. Et on le voit, nous, quand je l'ai invité sur ma tournée, j'ai terminé ma tournée à la scène musicale. Et il a d'ailleurs voulu faire la première partie un soir sur scène. On l'a fait à surprise aux gens. Mais j'ai vu combien les gens l'aiment et combien les gens étaient heureux de l'entendre chanter. Donc son public est là pour lui. Il vient de sortir un album magnifique. Vraiment, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup ému. Et voilà, et je l'aime d'amour.
Je vais me faire un petit plaisir, Vita, si tu veux bien, parce que j'ai envie d'écouter une de mes chansons préférées de toi. Elle s'appelle « Tu me laisseras », avec ce clip absolument magnifique dans l'univers du cirque. J'adore cette chanson. C'est pas une de celles peut-être que les gens ont le plus retenues.
C'était un single de l'album J4M, c'est un petit truc que
j'adore cette chanson. J'adore cette chanson, donc on va écouter « Tu me laisseras ». Voilà, « Tu me laisseras ». Et on revient juste après sur M Radio.
M Radio, M Radio. Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
On est de retour sur M Radio, toujours avec Vita dans Bienvenue chez Beaugrand, et c'est l'heure de la séquence la plus dangereuse de l'émission. Ça s'appelle Les chansons du grenier. C'est ma collection de disques assez incroyable, tu vas l'entendre, du kitsch, des raretés, des remixes un peu surprenants. Savais-tu que tu avais chanté du zouk avec Slimane?
Et je sais qu'il y a un remix zouk de Avant Toi.
Eh ben on va écouter un petit extrait de ce remix
zouk
de Avant Toi.
Tu sais qu'on a joué sur scène un jour avec mon équipe. À la dernière, au Stade de Lille, on avait fait ça. On était morts de rire. On a fait cette version qu'on adore et qu'on a découvert en fait nous-mêmes sur scène.
C'est génial. C'est un DJ de La Réunion, DJ Go 974, il s'appelle.
C'est un réunionnais, c'est ça.
C'est génial.
Ouais, ça tue, j'adore.
Et pour le coup, ça marche aussi.
Ça marche bien.
Ça marche aussi. Bah, alors, Zouk Love, quoi, c'est différent.
C'est un peu ça. Normalement, une bonne chanson, ça marche guitare, voix, piano. Ouais. Ça doit marcher comme ça dans des remixes, tu vois.
Alors, ça marche peut-être pas à tous les coups sur toutes les chansons, parce que est-ce que tu connais un DJ qui s'appelle DJ Broski?
Non.
Alors, je crois qu'il est américain. Il écrit sur sa page qu'il vient de Dallas. Mais après, c'est peut-être un Français qui s'est installé à Dallas, je ne sais pas. Il propose une version techno hardcore de Avant Toi.
Oula.
Ça change quand même beaucoup. Donc, prépare-toi psychologiquement.
Attends.
Ouais, c'est
marrant.
C'est un peu violent.
Ça fait un peu générique aussi de dessin animé, manga.
Ça pourrait être Capitaine Flamme.
C'est
ça pique un peu quand même.
Pas mal.
Sinon, j'avais envie d'écouter quelque chose que tu connais déjà, mais je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, évidemment. Et c'est en bonne place dans ma collection. La parodie hilarante de Fatal, Bazooka et Vito, bah ouais. Michael Youn et Pascal Obispo, Mauvaise foi nocturne.
Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que ça fait là?
Je suis fan.
Pourquoi toute cette violence? Moi, j'ai rien fait, moi.
Ouais, dis-lui.
Ouais, dis-lui. Donc, Vito, c'est Pascal Obispo, c'est toi, hein, donc, dans la chanson, dans la parodie. C'était à hurler de rire.
Il nous avait contacté avant. Il nous avait on devait apparaître dans le clip, en fait, nous, avec Mélanie.
C'est génial.
Puis on n'était pas là. Et ils sont allés jusqu'à reprendre. Non, mais Mickaël est complètement fou. Il était allé rappeler notre réal de clip, reprendre le même décor. C'est vrai que le clip est génial.
Oui, le clip ressemble beaucoup. Mais c'était le même réalisateur.
C'est le même réal.
Ah, c'est génial.
Dans le même décor, le même appart. C'était tellement drôle. C'est trop bien fait.
Est-ce que tu penses qu'au final, ça a aussi contribué au succès de Confession Nocturne,
moi,
cette parodie-là?
Ça a prolongé le succès de Confession. Ouais. Moi, c'est ma mélodie que Pascal reprend. Puis quand t'es parodie, c'est quand même que c'est quelque chose déjà. Moi, je trouvais ça génial.
Puis la parodie est très drôle et bien écrite aussi.
Quand
c'est ça qui est
génial.
C'est
pas bien fait, c'est un peu relou. Là, c'était vraiment bien.
Ouais, c'était vraiment bien. Et ça montre à quel point c'est culte aussi.
Ouais,
quand on est parodié, c'est que ça existe.
Culte,
dans ma collection, j'avais aussi envie de te faire écouter cette chanson. Je ne sais pas si tu étais devant, si tu étais devant ta télé ce soir-là. Sur TF1 le 6 février 2016.
J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi.
J'aurais abusé moi aussi.
Ah ouais, non mais là, Slimane donc chante ta chanson à fleur de toi. Là, tous les coachs se retournent. Zazie, Pani, Garou et Mika à la toute fin. Il a voulu entendre jusqu'à la fin de la chanson, il s'est retourné à la fin. Est-ce que, je sais pas si. Toi, t'étais devant ta télé ou si on te l'a dit.
J'étais pas devant ma télé, mais on m'avait prévenu avant qu'il le fasse et on m'avait dit voilà.
On t'a dit il y a un jeune chanteur génial.
Ouais, il le fait dans beaucoup de parce que Slimane c'est quelqu'un qui vient des cafés, il chantait beaucoup dans les bars et on me disait depuis plusieurs mois il chante ta chanson, il a fait une reprise magnifique, on me l'avait fait écouter et j'étais bouleversée.
Et quand on t'a fait écouter l'extrait, tu t'es dit tout de suite avec ce mec-là il se passe un truc, il a quelque chose.
Moi j'ai été bouleversée, j'avais pas conscience de ce qu'allait se passer pour lui, mais j'ai trouvé qu'en fait il avait proposé une réinterprétation tellement puissante. Je trouve Slim, sa force vraiment, c'est au-delà de sa puissance vocale, c'est un interprète incroyable.
Ouais.
Et en fait, il lui a donné une autre vie. D'ailleurs, cette chanson, elle a été découverte aussi par un autre public quand Slimane la reprend.
C'était 10 ans
un
après,
peu comme,
à peu près.
Comme, et bien sûr, un peu comme la parodie de Confession, ça a prolongé aussi la vie d'A Fleur de Toi. Moi, je le dis vraiment sans gêne.
C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui a peut-être découvert cette chanson.
Découvert, en fait, ça a prolongé un peu le succès de cette chanson. Ça lui a redonné une autre couleur et ça l'a rendue encore plus emblématique. Donc, ça m'a encore plus touchée.
Et quelques années après, vous chantez ensemble. Donc, ça, c'est quand même la super belle histoire.
C'est pour ça que
je dis
que c'est une espèce de conte de fées, cette histoire.
Ouais, il s'est vraiment passé un truc incroyable. Les petits secrets de Vita sont à suivre sur M Radio. Et comme Zazie a été la première à se retourner ce soir-là, on va écouter Zazie. Zen, soyons zen sur M Radio. Et on se retrouve juste après, évidemment, avec les secrets de Vita.
M Radio, M Radio. Tous les samedis, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
Toutes les semaines. Enfin, on va le faire à québécoise. Toutes les semaines, on parle... C'est pas Natacha Saint-Pierre. Bon, pour la garder comme ça, on parle des secrets de nos invités. Ma chère Vita, qui est avec nous, c'est un petit quiz qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que tu n'as peut-être jamais dit. Et comme on parle de secrets, j'ai demandé à la voix de me faire le jingle.
Ici la voix.
Okay.
Il est l'heure de découvrir les secrets de l'invité.
Bah oui, toi,
dans Bienvenue chez Beaugrand.
Exactement, c'est moi le patron. Vita, prête?
Prête.
Quel est ton petit rituel sur scène ou ton cri de guerre avant d'arriver, voilà, avant de commencer un spectacle?
Alors moi, je suis pas du tout superstitieuse. Par contre, j'ai un besoin d'un temps calme.
Ouais.
J'irai monter, sorry.
Un temps calme.
J'aime pas du tout avoir plein de monde dans mes loges et tout.
Tu veux pas qu'on vienne te parler?
Non, j'adore être avec mon équipe, ma petite maquilleuse tranquille, ma petite heure tranquille. Par contre, je check tout le monde, mon équipe avant de monter sur scène. Ouais, ça c'est indispensable.
Ah bah tu vois. Finalement.
Mais c'est pas parce que je vais pas checker mon batteur que je vais croire que ça va pas bien se passer.
Mais t'as envie de le faire. Voilà.
On fait un check, j'aime bien. Ça donne une petite énergie, on y va.
Quel est ton petit secret pour préserver ta voix? Parce que tu chantes et tu chantes beaucoup et tu chantes fort.
Moi, j'ai des vrais problèmes de fatigue vocale facilement. Déjà, c'est d'hygiène de vie. C'est-à-dire que vraiment, si tu sors, si tu bois, moi, je bois pas, je fume pas, jamais bu, jamais fumé. Je pense que tu préserves tes cordes vocales. La clé, c'est le sommeil.
Ouais.
Moi, il me faut... c'est très grave. Moi, j'ai besoin de dormir 10 heures. Hein, c'est vrai. Moi, je suis un ours. Hein. C'est
à 10 heures, ça fait beaucoup quand même.
Moi, si j'ai pas 9-10 heures... ma voix elle est faible, je le sais. Et après, c'est la chauffe. C'est-à-dire que vraiment, ça, par contre, c'est un rituel, c'est très important, mais c'est plus de l'hygiène vocale.
C'est de l'entraînement, quoi.
C'est, non, c'est des exercices vocaux que tu fais 45 minutes avant le show. J'ai 40 minutes de chauffe que je fais avec mon coach qui m'envoie un truc que je le fais avec une vidéo.
C'est un exercice.
Ouais, en fait, je peux pas chanter sans faire ma chauffe.
Vrai ou faux, on t'a déjà donné le surnom de Golgoth.
Ouais, t'es bien renseigné. Oui. Ça me fait rire aujourd'hui, mais ça a déclenché de tels complexes dans mon adolescence.
C'était au collège, c'est ça?
C'était au lycée.
Au lycée?
Moi, je faisais 15 kilos de plus que le poids que je fais là.
Ouais.
Et je me vois encore comme ça, tellement ça m'a complexé, tu vois.
T'étais un peu ronde et
j'étais plus ronde.
Les gens se moquaient.
J'étais beaucoup plus ronde. Mais vu que je suis grande, j'étais pas non plus, tu vois, mais j'avais des vraies formes, quoi. Et puis voilà, quoi. J'allais dire, les enfants sont méchants, mais au lycée, c'est pas des enfants. C'est comme au collège, quoi, c'est dur.
Les ados sont méchants.
Les gens
sont méchants en général.
Les gens sont cruels, tu vois. La race humaine est méchante.
Oui, c'est ça, on aime personne. En fait. Ouais. Au revoir.
Et ça m'a vraiment traumatisée. Et toute ma vie, j'ai été complexée. Toute ma vie, j'ai fait attention parce que ça m'est resté, ce surnom, tu vois.
Vrai ou faux, Slimane t'a proposé de faire une pause pendant ta tournée, enfin, pendant votre tournée, pour que tu tombes enceinte.
C'est vrai, ça dit comme ça, c'est très bizarre. Pas de lui, hein.
Non, pas de lui.
Mais, il y a des gens qui nous ont dit ça, vous êtes ensemble, mais pas du tout.
Les gens étaient à proposer,
une
fenêtre de tir.
En fait, ils voyaient que j'en souffrais, ouais, parce que j'avais deux garçons, je voulais absolument agrandir ma famille, et puis les années passées, et le succès de cet album était tellement violent qu'on a repoussé, il y a eu le Covid, et on s'est retrouvés pendant un an et demi en pause, et on avait une tournée qui allait repartir, donc on pouvait pas faire une vraie pause. Et il me dit, tu sais quoi, on va mettre dans le routing un 6 mois de break. Et il m'a dit, démerde-toi.
Donc c'était un break grossesse. Et après, il fallait...
Exactement.
Là, c'est Hichem qui a bossé, du coup. Enfin, vous deux.
Ouais, mais c'est surtout nous, hein, parce que tu sais, il faut tout calculer.
Donc Hichem, c'est son mari. Hein, donc,
j'avais une pression, je t'explique même pas. Et j'ai réussi mon coup.
Ah oui, tu veux dire calculer, il fallait les périodes d'ovulation, etc.
Bah, j'avais 6 mois pour...
6 mois utiles, quoi. Il fallait...
Et 6 mois de vrai break. Et à 37 ans, c'est pas facile hein, de tomber enceinte.
Il n'y avait pas de temps à perdre.
T'as tout compris.
Il fallait... Et ça a marché.
J'ai réussi. Donc
tout va bien.
J'ai des techniques, les filles, si vous voulez.
Alors, très bien, c'est ça. Il faut calculer, c'est très compliqué.
Il faut calculer, tout, c'est compliqué.
Est-ce que tu n'aimerais pas, dernière question, de temps en temps, que ton mari, Hichem, te félicite, que tu dises qu'une chanson est bien, que le concert est réussi?
Ça n'arrivera pas.
Il est si dur que ça?
Ouais, il est très dur. C'est le mec le plus exigeant que je connaisse. Et à la fois, je pense que c'est ce qui me permet d'aller finalement aussi loin, parce que je suis pas entourée de gens qui me caressent dans le sens du poil.
Ils sont pas dans l'admiration.
Mais j'aime pas ça, moi. J'aime pas l'hypocrisie dans ce métier. Elle est tellement omniprésente. J'aime pas qu'on me mente. J'aime pas qu'on me dise c'est génial quand c'est nul. Ça m'arrive de faire des télés où j'étais nulle. Je déteste qu'on me caresse dans le sens du poil pour rien, tu vois. Donc oui, c'est une équipe.
Oui, t'as pas eu de cours autour de toi, voilà.
Pas du tout.
Pas ton truc.
Pas du tout. Alors que souvent, c'est le cas. Et donc, du coup, ça te permet de te dépasser tout le temps. En fait, c'est jamais assez bien.
Je crois que Hichem, il s'entendra très bien avec mon mec.
Ah ouais, tu vois. C'est pour ça qu'on les aime.
C'est tout pour le moment.
Ouais, mais ils sont pas faciles. Hein.
C'est pas facile tous les jours.
Vita, reste avec nous à suivre la bande originale de ta vie.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
On est avec Vita sur M Radio dans Bienvenue chez Beaugrand et on refait la vie de l'invité avec quelques petits extraits sonores qui l'ont marqué. Tu nous as donné les petites infos avant, donc nous avons sorti les chansons.
Ah.
Voici le premier disque que Vita a acheté. Mariah Carey, Anytime You Need a Friend.
Ça fait des maxi,
ouais.
Et t'avais plein de versions comme ça. Et donc c'était que des remixes. Il y avait des remixes dance club. Elle faisait beaucoup de remixes. Et je l'avais importé.
Là, il y avait un côté un peu gospel. Là.
Ah ouais, j'adore. J'adore le gospel. Moi, je viens un peu du gospel.
Ouais.
Je suis Mariah Carey. Ça reste une grande influence musicale.
Le générique de dessin animé culte de ton enfance.
Vous l'avez trouvé ?
Non, c'était pas celle-là. Alors, le générique de dessin animé culte de ton enfance.
C'est mon ami.
Tu connais
bien plus encore.
Mais est-ce que tu connais?
Bien sûr, je connais.
Denver, c'était pas non plus Goldorak. Et en fait, moi, vu que j'ai des vertèbres très prononcées qui sortent, on m'appelle Denver. C'est pour ça que je
voulais. Quoi? Parce que.
Je suis très maigre des os du dos.
Ouais, ah oui, donc,
on m'a toujours appelé Denver.
D'accord.
Parce qu'il avait un dos comme ça.
Ça fait comme des écailles de dinosaures.
Ouais. Non, les vertèbres, tu vois.
Oui, je vois.
C'est génial.
Très bien. On apprend des trucs. Non, mais là, on en saura plus que ce qu'on pensait. On va continuer dans les dessins animés parce que ton plaisir coupable, c'est aussi un générique de dessin animé que j'adorais.
Renard, sacré pouille, coquet, coquin, renard, chenapan. Chaque grippe sacré vaut rien.
Renard. J'adorais ce générique.
C'est génial, hein. Je suis sûr que tu l'avais pas écouté depuis très longtemps.
Non mais j'adore. Ça m'arrive des fois d'aller regarder. C'est sur France 3.
Ouais, c'était bien ça. Bon, alors vraiment sans aucune transition, la chanson que tu aurais aimé écrire.
Ne me quitte pas.
Ouais, quel classique.
Ne me quitte pas.
Une chanson extraordinaire.
Ouais, c'est du génie.
Ne me quitte pas.
En fait, les détails dans cette chanson sont.
Pas moi, je t'offrirai. Des perles de pluie.
Mais les seuls à passer de Denver, le dernier dinosaure, à Jacques Brel, c'est exceptionnel. Personne ne fait ça. La chanson qui te fait danser le samedi soir, moi aussi.
Non.
Toujours pas. Toujours pas. La chanson qui te fait danser le samedi soir. American Boy. Excellente chanson avec Kanye West, Estelle. Génial. Et on va finir avec la chanson préférée de tes enfants. Moi, mon fils adore aussi en ce moment ça.
Je peux plus, j'en peux plus. Tu peux encore, je peux plus cette chanson.
Moi, je l'aime bien en anglais.
Mais ouais, en français, j'aime pas. Je trouve la date moins bien. Voilà. Et ma fille, la connaît en français.
Bah, moi, aussi, mon fils, il la connaît en français.
Donc, ils ont quand même réussi leur coup. Mais ah, par contre, la chanson, c'est un énorme tube.
C'est la chanson de K-pop Demon Hunter de Netflix. Donc, c'est une chanson de K-pop.
C'est inchantable. Je vous le dis, hein, parce que j'ai essayé.
Ah, t'as essayé.
Mais elle est incroyable cette chanson. Franchement, elle est trop forte cette chanson. La mélodie, quand tu l'entends une fois,
ah oui,
c'est
ça rentre,
foutu.
Hein.
Ma fille de 3 ans fait ça toute la journée, je ne peux plus cette
C'est
chanson.
Quoi déjà le prénom de ta fille ?
Noah.
Bon, bah, Noah, si tu nous écoutes, maman adore cette chanson.
Pas du tout, je me
Elle aimerait que tu la chantes plus souvent.
J'en ai marre.
Vita, on te retrouve dans un instant pour répondre aux questions de nos auditeurs.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
Avec Vita ce matin, jusqu'à midi, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux, ma chère Vita, de M Radio, pour que les auditeurs te posent toutes les questions qu'ils veulent. C'est donc votre moment, vous qui nous avez envoyé des messages sur notre boucle WhatsApp à ce numéro 06 95 094 094. Il suffisait d'envoyer votre question avec un petit vocal, ce qu'a fait Sophie.
Coucou Vita, c'est Sophie. Je voulais savoir quels sont tes futurs projets dans les mois ou les années à venir, que ce soit dans la musique ou même dans un autre domaine, peut-être un nouveau rôle d'actrice dans un film ou une série ou autre chose.
Ah, alors actrice, tiens.
Eh ben, c'est Est-ce vrai que j'ai fait mes premiers pas cet été dans une série TF1 qui s'appelait et Netflix Tout pour la lumière.
Dans Tout pour la lumière, ouais.
Voilà, c'est vrai que c'était pas un projet que j'avais envisagé. Maintenant, ça m'a complètement ouverte à ça, dans le sens où j'ai adoré l'exercice.
Ah ouais, ça t'a amusé ?
Ouais, donc Sophie, bonne question. Il n'y a pas de projet signé en cours, mais je suis pas fermée, j'ai c'est... quelques propositions.
Ah oui ?
Donc écoute...
Donc t'as fait savoir quand même que ça pouvait t'intéresser ?
Moi j'étais fermée, vraiment de base. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment tellement aimé l'exercice, je me suis dit en fait...
Pourquoi pas ?
C'est marrant, ouais. J'ai kiffé ça. Donc voilà, comme quoi il faut essayer dans la vie. Et sinon, quels sont mes projets ? Écoute, là je suis un vrai break parce que ça fait quasiment 5 ans que je suis en tournée, entre la tournée Versus et ma tournée de mon dernier album.
Oui, beaucoup de dates.
Donc je viens de terminer ma tournée, là je suis en break, ça me fait du bien. Je repars en festival cet été.
Ouais.
Voilà, donc des projets de scène. Et puis sinon, bah, je travaille pour d'autres artistes, pour plein d'autres artistes pour qui j'écris. Mais là, en ce moment, je suis en break, ça me fait vraiment du bien.
Et ta famille, évidemment.
Ma famille, voilà, parce que quand on est en break, on n'est pas en break. Moi, je me tape les deux voir tous les soirs, je t'explique, j'en peux plus, et j'ai tous les âges, maternelle, primaire, collège et lycée, donc je suis en break à la maison, je suis en femme au foyer en ce moment,
mais c'est
je suis en desperate housewife.
Et on sait que ça fait beaucoup de boulot.
Et c'est du boulot,
c'est beaucoup
un vrai
boulot.
Métier, je tiens à le dire.
Voilà, on respecte tous les hommes ou les femmes au foyer,
vraiment,
parce que
beaucoup.
C'est vraiment du taf. Tiens, une question adorable de la petite Juliette.
Coucou Vita, c'est Juliette. J'ai déjà eu la chance de venir te voir plusieurs fois en tournée, et la question que je voulais te poser, c'est quel est ton plus beau souvenir sur scène ?
Ton
plus
beau
Juliette,
souvenir.
C'est trop chou. Mon plus beau souvenir sur scène. Voilà, là, bah, jusqu'à ma tournée, je parlais de ma première cigale à l'époque qui était incroyable et qui m'avait bouleversée.
Mais il y a longtemps, du coup.
C'était très long, c'était en 2007. Mais là, ce que j'ai vécu sur cette tournée, sur ma tournée Charlotte, c'était incroyable. Je dirais peut-être que c'était ma dernière scène musicale où j'ai fini en larmes sur scène. On a fait plus de 60 Zénith et Arena. Très honnêtement, c'était ma plus belle tournée. Et j'ai un public incroyable, moi, qui est intergénérationnel, qui chante. J'ai des enfants et j'ai des mamies de 70 ans qui chantent Marseille. C'est incroyable.
Ça,
et qui chantent Confession Nocturne. Et vraiment,
T'as des mamies, t'as fait rapper des mamies.
Mais j'ai des mamies qui chantent Confession Nocturne, c'est exceptionnel.
C'est génial.
Et tout le monde a pas. Moi, pour moi, je le vis comme une grâce d'avoir un public comme ça. Et tous les soirs, je vais descendre dans le public, chante avec eux. J'ai vécu des moments merveilleux sur cette tournée, donc je dirais ma dernière scène musicale. Ouais.
Ah bah c'est magnifique ça. Dans quelques instants, on va remonter le temps et écouter les tubes qui correspondent aux dates de ta vie. Tu vas voir. On le dit, la musique nous accompagne toute notre existence et toi aussi, elle t'a accompagné. À tout de suite sur M Radio.
M Radio, M Radio. Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
C'est l'heure des tubes de la vie de notre invité Vita sur M Radio, car on remonte le temps toutes les semaines. Et voilà, je suis allé chercher les dates importantes de ta vie et les tubes qui cartonnaient à l'époque. Généralement, on se rappelle comme ça des chansons qui nous accompagnent. Vita, donc alias Charlotte Gonin, née le 14 mars 1983 à Mulhouse, ça c'est juste.
Ouais.
Mais quel était le tube français à l'époque, numéro 1 des ventes?
Ah, c'est les
Forbans.
Les Forbans, les Forbans, je me rappelle très bien.
Et tout le monde chez toi.
J'aime bien.
Dans le living room.
Genre,
mais attends, imagine le tube. 45 tours vendus à l'époque à plus de 2 millions d'exemplaires.
C'est
alors, c'est une époque où on achetait beaucoup plus de disques, mais gigantesque carton. Et donc, d'ailleurs, Bébert, le chanteur des Forbans, nous a quittés au mois de novembre dernier. Donc, c'était une occasion aussi, parce qu'on est nombreux à avoir écouté les Forbans et,
moi, j'aimais bien les Forbans
et avoir fait des booms le samedi après-midi
en
dansant du rock. Oui, on est très âgés. Enfin, surtout moi. Je suis plus vieux que toi, quand même. On va dérouler une autre date, le 19 février 2002, sortie d'une compile rap avec ta voix dessus, sur un titre du rappeur Dadou. Tu commences ton métier de chanteuse,
c'est
donc
la première fois
18-19 ans.
Ouais.
Y a une chanson qui s'appelait Pas à pas.
C'est la première fois que j'enregistre sur un disque qui sort, en fait.
Donc là, t'étais fière de,
et c'est,
de te retrouver comme ça
DJ
dans les bacs.
Coste et Goldfinger qui m'invitent sur cette compilation. Enfin, c'est Dadou qui me fait chanter. Il m'invite sur cette compil et je chante sur ce. Et surtout, après, ça passe en radio. Et la première fois que j'entends ma voix en radio, c'est sur cette chanson. Trop,
elle était refaite, mais elle bossait encore dans les magasins à l'époque.
Exactement.
Parce que
exactement.
C'était pas la fortune.
Et donc les gens
déjà
vont voir au magasin, alors et tout. Tu chantes et tout.
C'est la classe. Mais alors, qu'est-ce qui était numéro 1 des ventes à cette époque-là? C'était un duo.
C'était quelle année?
C'était 2002, 19 février 2002, le duo Mylène Farmer avec Syl.
Ah ouais.
Est-ce que c'est un modèle pour toi, par exemple, une chanteuse comme Mylène Farmer qui a dont une carrière phénoménale, vraiment, on est dans
incroyable.
Voilà. Moi, qui a toujours su, pour le coup, préserver sa vie privée. C'est moins qu'on
c'est
puisse dire.
C'est en ça que c'est un modèle. C'est-à-dire que, au-delà de l'admiration que j'ai pour sa carrière, parce qu'il faut faire des carrières comme ça.
Mais de durer à ce point. Ouais.
C'est incroyable, en longévité, ce qu'elle a réussi à faire. J'admire chez cette femme sa discrétion, le fait que, en fait, elle revient quand elle a envie de revenir. Elle a un public pourtant qui l'aime tellement et qui la soutient. Alors, je souhaite à tout le monde dans son public.
Mais les gens sont toujours là, hein, ça c'est sûr.
Les gens sont là. Et pour autant, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner, qui veut pas tout donner. Et qui, et pourtant, qui a beaucoup de respect pour les gens, ça se voit. Et j'aime beaucoup l'être humain.
Ouais.
Et j'ai beaucoup de respect pour sa carrière.
Tu l'as jamais rencontré?
Je l'ai jamais rencontré. Mais on a des gens en commun. Peut-être bientôt.
Peut-être un jour. Autre date cruciale pour ta carrière, le 5 février 2007. Encore en février, hein, tu es marqué par le février.
Ouais, dis donc.
Sorti ton premier album qui a cartonné, on le sait tout de suite. Mais qui était en tête à ce moment-là, juste avant la sortie de ce premier album?
C'est qui?
Eh bien, c'était Mehdi Custos.
Ah, je m'en rappelle. Alors, j'ai jamais réécouté cette chanson. Mehdi Custos, je m'en rappelle de fou. D'accord, ok.
Un tube de Zouk Love, c'est une star guadeloupéenne. Je suis sûr qu'on a tous dansé dessus en soirée. Autre date très importante, c'est plus récent, le 23 août 2019, la sortie de Versus, cet album de duo avec Slimane. Gigantesque succès, double disque de diamant, album le plus vendu, tout album confondu, même album étranger de l'année 2020. Quel était le tube de cette fin d'été 2019 au moment où l'album est sorti?
C'est qui ça, c'est pas
Shawn Mendes et Camila Cabello.
Mendes, ouais, c'est ça. Ah, j'aime beaucoup. 2019.
Ouais. Ça passe vite, je te confirme. D'ailleurs, ça passe tellement vite que c'est bientôt la fin de l'émission. Et on se retrouve dans un instant pour se dire au revoir avec Vita.
M Radio, M Radio.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, c'est déjà terminé, mais c'était un plaisir de passer ce samedi matin
beaucoup
avec toi, ma chère Vita.
Partagé, merci beaucoup.
Vraiment, c'était un bonheur.
Le monde peut crier plus fort là-bas.
Mais j'ai une bonne nouvelle, car Vita va effectivement passer en plus une partie de son dimanche avec vous, un dimanche avec toi, car tu as préparé ta playlist. Demain matin, c'est toi qui choisis les titres et qui deviens animatrice sur M Radio. On te souhaite tous les bonheurs du monde pour les festivals qui vont venir dans quelques mois, pour les devoirs, parce que je crois que t'en as marre, pour que ton fils trouve une fiancée à la hauteur de la maman que tu es. Et puis profite de la vie et continue de nous émerveiller et d'écrire des belles chansons pour toi et pour les autres. Le podcast est dispo sur le site de M Radio et on se retrouve samedi prochain, 10h midi. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez beau, soyez grand, soyez
beau grand. Pas mal celle-là. Qui l'a trouvé ?
C'est moi. En toute modestie. Allez, à la semaine prochaine.